Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 7 avril 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h ou 13h30, ça dépend du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Sera question de VTT aujourd'hui à 15h, du reggae avec Jeannot Dead et à 17h. Éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le festival Ouba Ouba que vous attendez tous.
Radio Éphémère présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Basket et la participation exceptionnelle de JB.
Salut du sport.
Bonjour Ultimatum. Ouais. Sans Daskitch, c'est une publicité mensongère, c'est un générique mensongère.
Oui, et sans JB, mais ça, vous avez l'habitude.
Ouais, ça c'est vrai. Non, y a pas de problème.
Donc du sport est aux manettes aujourd'hui. On a fait une émission supplément week-end allégée.
Ah oui, très très allégée. Donc qui va être musicale, on va dire.
Hein. Oui, voilà.
C'est un petit peu. Bon, on va faire les feignants comme Xavier la semaine dernière. Pareil, hein. Ah ouais, on met beaucoup de musique, avec un argumentaire complètement bidon, du style, oui, le CSA nous met en demeure de passer plus de chansons francophones, on va vous passer un spécial chansons francophones, avec bien entendu beaucoup de bouse, mais enfin bon, bien entendu, c'était uniquement un gimmick pour la semaine dernière, là, on va également passer, un petit peu de musique, mais, ce sera, plus relevé, on va dire.
Ah bon, d'accord.
Alors, au sommaire, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien, on a la revue de presse consacrée au 7e art. On a une chronique de film familial. Et toi, tu as?
Et moi, je vais vous narrer quelles sont les quelques séries inédites qui vont passer durant cette semaine, ainsi que quelques films. Et là, je me suis concentré surtout pour une fois. Pour une fois, ça m'arrive assez souvent sur les polars et sur les westerns. Voilà,
de la
semaine
tiens.
Prochaine. Ouais, comme ça, quoi.
Bon, d'accord.
Ok.
Ok, eh bien écoute, on va commencer avec la revue de presse.
Revue de presse, ouais.
Alors, j'ai volontairement mis les magazines sur la première page cachée pour que tu découvres en direct quelle est la nouvelle veine de première, puisque je me suis rabonné récemment, j'ai reçu déjà 2 numéros. Attention, voici les nouvelles couvertures de première.
Ah ouais, celle avec Charlize Theron, je l'ai vue. Voilà. Que, si tu veux, je l'ai reconnue dans le film qui va sortir d'elle. S'appelle La princesse et le chasseur.
Voilà, j'interprète la méchante dans la nouvelle vie, oui, la revisitation de Blanche-Neige.
Oui, c'est la sorcière. Hein.
Voilà, mais la sorcière qui pense être la plus belle. Oui, et oui. Il faut dire que j'ai vu la bande annonce hier, ça le fait quand
non,
même.
Non, ça le fait, hein, il y a pas
voilà,
de problème.
Bon, de toute façon, chaque apparition avec Charlize Theron en grand écran, ça le fait.
Oui, avec en plus l'interprète de Thor.
Oui, qui fait le chasseur.
Qui fait le chasseur, donc pratiquement il a pas eu besoin de changer de fringue d'un film à l'autre.
Ouais, voilà, donc
y a pas de problème.
Il a continué son entraînement de bodybuilding.
Ouais.
Et celle qui joue Blanche-Neige n'est autre que l'héroïne de la saga Twilight.
Et voilà.
Donc il y a les deux dernières couvertures du numéro de mars et d'avril. On croirait des couvertures de Elle, hein, puisque ce sont des poses très glamour de Charlize Theron, et ce mois-ci pour le numéro d'avril, c'est Scarlett Johansson qui fait la couverture, puisqu'elle a une double actualité avec la sortie prochaine des Avengers et également la sortie de Nouveau Départ, le nouveau film de Cameron Crowe avec Matt Damon. Et donc au programme de ce nouveau numéro de première, on a ils reviennent en long en large un petit peu quand même, mais pas trop, sur le film Le Marsupilami dont on parlera tout à l'heure, avec une interview d'Alain Chabat de 4 pages, une petite interview assez courte de Fred Testo puisqu'il lui pose surtout la question comment c'est la vie avec Omar depuis qu'Omar a explosé avec notamment les Césars, une interview carrière avec Val Kilmer. Alors ça c'est dommage parce qu'elle est trop courte. Et il lui pose une question où à chaque question il revient sur un film qui a été marquant dans sa filmo. Donc on a Les Doors, on a Top Gun, on a Batman. Alors un truc rigolo pour Batman, c'est qu'il raconte que il se remettait du fait qu'il n'avait pas été appelé finalement par Tony Scott pour jouer dans USS Alabama. Mmh. On parlait déjà justement de USS Alabama il y a deux semaines. Pour se changer les idées, il part en Afrique. Et sa voiture tombe en panne. Et il se retrouve dans une grotte avec des chauves-souris. Ça, c'est véridique. Et il se dit, bon, il y avait rien à faire. Donc, il appelle son agent et pour renouer contact. Et puis, son agent lui dit, est-ce que ça te dirait de jouer dans Batman? Alors, il lui dit, attends, c'est ma femme qui t'a dit que j'étais tombé dans une grotte de chauve-souris. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il raconte après comment a été la collaboration avec Joel Schumacher, qu'il a pas trop apprécié. Schumacher le trouvait acteur trop difficile. Bon, c'est Val Kilmer.
Oui, c'est voilà. Val Kilmer aussi. Hein.
Voilà. Et ensuite, il dit qu'il s'est refait une santé avec le tournage du film marquant suivant, qui est Kiss Kiss Bang Bang, où il disait qu'il s'est rué sur le rôle parce qu'il a vu qu'il avait un rôle de gay, où il passait le film à dire à Robert Downey Jr. de fermer sa gueule. Donc il a adhéré au bout de 30 pages du script. Il a dit bon, ce film est pour moi. Donc voilà, il revient aussi sur le fait qu'il avait demandé à Oliver Stone d'interpréter quand même, de faire des essais pour chanter effectivement des chansons de Morrison pour le film Les Doors. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interview carrière de Val Kilmer. Il y a aussi un retour en sens photo par l'équipe d'American Pie, puisqu'il y a un quatrième épisode qui ressort, ainsi qu'une un dossier sur le nouveau film avec Peter Mulan. Et également une grosse interview avec toute la bande du film Radio Star, qui est le film générationnel français, avec Manu Payet notamment et Clovis Cornillac. Voilà, donc un numéro assez complet de première qui coûte pas très cher. En kiosque, il est à 3,50€. Voilà, le numéro 422 d'avril 2012. Voilà. On va enchaîner juste avant de parler cinéma avec la rubrique agenda. Sachez que la fin du mois, les 28 et 29 avril, se tiendra le TGS Oanami, qui est la version, on va dire, light du TGS, du Toulouse Game Show, qui se déroule chaque dernier week-end de novembre. Et cette année, les invités ne sont autres que Cliff Simon, qui interprète le rôle de Baal dans Stargate SG-1. Il y a également David Nicle qui joue dans la série spin-off Stargate Atlantis, ainsi que Carmen Argenzeno, qui joue le double rôle de Jacob, le père de Samantha Carter, Jacob Carter, ainsi que Selmac, donc voilà, dans la série Stargate. J'ai une édition très branchée Stargate, mais également il y a Davy Mourier qui sera là, le joueur du grenier, Marcus, le groupe de Visual Kei, D, qui sera là également, Brigitte Lecordier, qui est doubleuse Dragon Ball, et d'autres, ainsi que d'autres invités, et même des invités BD. L'invité qui devait être l'invité manga animation s'est décommandé au dernier moment, donc il n'y aura pas d'invité manga cette année, mais les organisateurs du salon annoncent qu'ils se rattraperont pour l'édition de novembre prochain. Donc les 28 et 29 avril, le TGS Oanami, donc convention manga SF animation, qui se déroulera à la Beige, à l'espace Diagora. Voilà, comme d'habitude, nous y serons pour vous ramener des images du son. We'll be right back.
Ça vient d'arriver il y a pas si longtemps que ça, avant-hier. Et c'est Lou and Placido qu'on retrouve. On les connaît parce que ils avaient déjà fait des mashups il y a 4 ou 5 ans et tout. Mais là, ils sont un peu pris par leurs occupations professionnelles, vu que maintenant, c'est des super mixeurs et des super rangeurs, bah ils travaillent un petit peu avec les grands de ce monde, on va dire, dans le monde de la musique. Un petit peu à l'instar de Zebra, hein, c'est-à-dire reprendre un, voire plusieurs morceaux et les mélanger de telle manière à ce que ça donne un troisième morceau assez reconnaissable. Et là, vous avez reconnu, même Thomas a reconnu Rob Zombie directement dès le début et tout, alors qu'au départ, on aurait cru que ça aurait été plus facile de reconnaître Lips Inc.
Oui.
Hein, la musique d'Areva, hein, entre autres. Voilà, c'est ça, Funky Town, quoi, le morceau Funky Town. Bah ouais. Mais maintenant... Il est temps
de passer en grand écran.
Ouais.
Et oui, la chronique du film d'aventure familiale de la semaine qui s'appelle Sur la piste du marsupilami. Vous n'êtes pas sans savoir que le film est sorti avec le battage médiatique qui va avec. Et car c'est le nouveau film d'Alain Chabat et sa deuxième adaptation de bande dessinée après Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'était déjà il y a plus de 10 ans, hein, quand même. On a l'impression que c'était hier, mais ouais. Le temps passe. Donc voilà le nouveau film.
Bah oui, j'ai appris parce que il est en train de faire une promotion, bien entendu, d'enfer pour le film. Quoique à la limite, c'est même pas la peine. Mais enfin bon, ça fait partie du boulot et en plus, il est payé pour ça et c'est une grosse partie du budget généralement d'un film maintenant, surtout d'un film comme celui-là. Mais par contre, j'ai appris qu'il a fait que 4 films en tant que réalisateur.
Oui,
c'est pas tellement que ça.
Didier, Astérix, et ce film-là, donc seulement son 4e film. Alors c'est vrai que oui, tu l'as dit, tu as pointé du doigt le truc, c'est que effectivement, c'est, quand tu vois le casting du film, c'est un festival de bons clients télé de toute façon. Donc ça aurait été dommage de se priver de la présence de ces gens-là pour les émissions, on va dire phares des promos que sont Le Grand Journal, Les Enfants de la télé. Je ne sais pas si ça existe toujours cette émission et des émissions comme ça. Donc c'est un film de et avec Alain Chabat, avec aussi donc Jamel Debbouze, Fred Testo, Géraldine Nakache, Lambert Wilson, Patrick Timsit et Jacques Weber, pour ne citer que les plus connus. Alors, le pitch, afin de sauver son poste de reporter TV, le journaliste Dan Geraldo, incarné par Chabat, devenu star il y a des années suite à un reportage devenu fameux en Palombie, repart dans ce pays pour amener une interview des mystérieux guerriers Paya. Sans contact sur place, c'est Pablito, un guide volubile et adepte de l'arnaque que tout le monde traite de menteur, donc évidemment joué par Jamel. Mais ce voyage en Palombie va s'avérer plein de rebondissements pour Geraldo et va le mener sur les traces d'une créature mystérieuse, le marsupilami. Il sera aussi question d'une prophétie païa qui mettra aux prises un dictateur mélomane et un botaniste diabolique. Voilà, donc, vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Il faut quand même dire au début, avant de parler du film, que c'est une adaptation du personnage créé par André Franquin. André Franquin, qui était un auteur, dessinateur de bande dessinée, qui s'était fait connaître en reprenant les aventures de Spirou et Fantasio pour le magazine Spirou dans les années 40, où il invente les personnages. Il met sa patte sur cette série-là en inventant les personnages de Zorglub, du comte de Champignac ou du marsupilami. Écrit à la fin des années 50, le personnage de Gaston Lagaffe avec Yvan Delporte. Et oui, Franquin, c'est aussi Gaston Lagaffe. Dans les années 50, il crée le studio Franquin, où Roba, JDM et Greg vont le rejoindre. C'est pas des plus méconnus, bien sûr. Il était connu aussi pour sa veine écologiste et humaniste. Donc on le voit dans Gaston Lagaffe, hein, avec les animaux, le fait que Gaston, c'était plutôt un héros sans emploi, doux rêveur, qui était adepte des machines en tout genre et bricolages plus ou moins géniaux ou plus ou moins voués à l'échec. Donc voilà, il nourrissait des passions pour les machines et les animaux. Il meurt, André Franquin, en 97, des suites d'un infarctus. Alors André Franquin était considéré comme l'un des auteurs plus que phares de la BD franco-belge. Et c'était l'un des l'une des lumières de ce média, de ce courant de bande dessinée. On en avait parlé de Gringos Locos, donc Franquin, il avait accompagné donc la JG et sa famille ainsi que Maurice dans leur voyage aux États-Unis pour fuir une hypothétique guerre nucléaire en France, et c'est là qu'il commence à faire ses armes, à reprendre la série Spirou et Fantasio depuis l'Amérique, depuis le Mexique. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire d'André Franquin, évidemment, si Xavier avait été là, il aurait pu faire une chronique beaucoup plus poussée, puisque c'est lui le spécialiste de bande dessinée, mais comme il n'est pas là, nous nous en contenterons. Le film sur la piste du Marsupilami, donc c'est un film que voulait faire Alain Chabat depuis pas mal d'années. Il avait déjà voulu faire ce film avant de faire Astérix Mission Cléopâtre, mais Claude Berry lui avait dit « ouais, c'est un peu coûteux quand même ». Les effets spéciaux pour la créature, etc. Même s'il faut pas parler d'effets spéciaux pour ce film, hein, puisque le plan promo, le plan de com du film, c'est que c'est un documentaire. Hein. Le Marsupilami existe. On dit ça pour les plus jeunes qui pensent que on va pas leur pourrir l'effet. Donc le Marsupilami, ils ont utilisé des effets spéciaux, mais uniquement quand le Marsupilami était de mauvais poil, hein, qu'il voulait pas faire ce qu'on lui demandait, donc ils ont pris une doublure numérique pour faire certains gestes. Mais le Marsupilami existe, il habite en Palombie, voilà. Alors donc il voulait faire ce film depuis pas mal de temps. Il voulait surtout adapter Z Kormzor Glub et l'ombre du Z, qui était le diptyque de Franquin mettant en scène donc Zorglub et la Zorglang, les fameux Zorglomes où il fallait parler à l'envers. Par exemple du sport, ça se dit trop sud. Voilà, il faut parler à l'envers. Évidemment, dans les BD, tous les hommes de main de Zorglub, ils n'arrivaient pas à maîtriser la Zorglang. Donc au lieu de l'appeler alors Zorglub, ça fait Bulgrose. Donc au lieu de l'appeler Bulgrose, il l'appelait Zugol ou Bozul. Donc voilà, ça c'était prétexte à faire des scènes où il s'énervait beaucoup. C'était assez drôle. Donc il voulait mettre en scène Zorglub, mais pour des problèmes de droit juridique, il a pas pu, parce que il faut savoir que Franquin a laissé ses héritiers donner vie donc à Spirou, Fantasio, réutiliser Zorglub, le comte de Champignac, mais il a gardé les droits sur le Marsupilami. Donc voilà, faire cohabiter des ayants droit pour des autres personnages avec le Marsupilami, c'était déjà un casse-tête, donc ils n'ont pas pu mettre Spirou et Fantasio dans cette aventure-là. Donc Chabat a expliqué, donc d'ailleurs il s'en explique dans l'interview dans Première dont je parlais tout à l'heure, que la principale difficulté et la qualité du Marsupilami, c'est que c'est à la fois un personnage central et secondaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être complètement décalé par rapport aux aventures, qui va précipiter les aventures, qui va les solutionner, mais au milieu, il va batifoler, on va pas le voir, ou comme disait Chabat, c'est quelqu'un quand même, le Marsupilami est un animal qui est capable de regarder en détail une fleur, de s'émerveiller d'une fleur pendant que Spirou est aux portes de la mort avec les crocodiles. Il va lui sauver la mise, non seulement après avoir passé du temps à regarder les insectes et tout, voilà. Donc c'est un personnage assez décalé, c'était ça la principale difficulté du film. Donc le film s'adresse principalement à un public jeune, hein, il faut pas se leurrer, c'est la principale différence avec Astérix. Alors le film, je l'ai vu hier, c'est encore assez frais, le film commence et pour ne rien vous cacher, il commence selon moi assez mollement, puisque bon voilà, il y a une superbe scène d'intro avec le Marsupilami dans la forêt de Palombie, mais après il y a quand même une longue scène d'exposition pour présenter les 8 personnages principaux quand même. Alors cette galerie de personnages qui est présentée, ça se fait selon des scénettes qui sentent quand même vachement le faux. C'est selon moi, c'est ils ont pas réussi à trouver un petit peu le bon dosage au début, puisqu'il y a la présentation de Chabat qui est présentateur télé, assez star dans sa chaîne de télé. Il y a des références, il y a des publicités pour des parfums, pour des crèmes, c'est décalé, mais c'est pas vraiment très très drôle. Le personnage de Jamel, il est savoureusement décalé, mais c'est vrai que la mayonnaise met du temps à arriver, met du temps à prendre, et tu te dis moins bof. Voilà, bon, ça dure pas longtemps. Au bout de 10 minutes, c'est bon. Et là, tu dis, ah, quand même. Et là, c'est un festival pendant une heure et demie. C'est irracontable, bien sûr, puisque vous avez vu que le plan promo Ils en dévoilaient pas beaucoup et c'est à juste titre. C'est un festival. Alors, je vais utiliser des guillemets, bien sûr. À la radio, c'est pas très radiophonique, mais c'est quand même à utiliser avec des guillemets parce que c'est une expression très galvaudée. C'est du culte en puissance. Franchement, c'est si vous avez aimé Astérix, Mission Cléopâtre, vous allez adorer Marsupilami parce que c'est de la vanne, mais au kilomètre, il y a 35 idées de mise en scène par scène. Alors, je sais que c'est des expressions qui sont toutes faites parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est assez visuel comme Jeunet, comme Kassovitz, comme Chabat qui font de la vanne et tout, il y a tout le monde qui dit « Oh là là, quel fourmillement d'idées !» Mais là, c'est vraiment, on peut pas dire autre chose de ce film. On ne peut pas raconter les gags, on ne peut pas même en parler avant parce que ça dévoile trop. Sachez juste que Chabat joue avec le médium. Chabat présente une galerie de personnages beaucoup plus premier degré que Astérix, parce qu'Astérix c'est quand même on recycle l'humour Canal+.
Bah, de toute façon Astérix il y a un carcan qui est nettement plus rigide que le Marsupilami.
Oui voilà.
Hein, c'est ça le problème oui. Quoi, en fait. Parce que justement ce que tu disais avant en préambule, hein, c'est que bon, le Marsupilami fait pas vraiment partie des histoires. Hein, c'est-à-dire que il serait pas là. À la limite ce serait pratiquement la même chose. Oui. Bon il y aurait beaucoup d'effets comiques qui tomberait et en fait il y aurait plus de comédie du tout quoi. C'est lui qui dédramatise souvent les situations quand justement Spirou Fantasio se retrouve dans des trucs dramatiques, lui bah OK, il est là en train de glander, en train de faire tout et n'importe quoi, en train de faire ce boing boing et puis bon bah ça dédramatise déjà mais en même temps, il est pas tout à fait dans l'action, il est pas vraiment raccord. Donc c'est pour ça que je pense que Chabat s'est bien lâché sur ce coup-là. Hein, parce que bon, bah, il s'est dit, il y a pas de problème. De toute façon, je peux pas trahir l'esprit de Franquin en faisant pratiquement tout et n'importe quoi, parce que c'est déjà ce que le Marsu fait en général, quoi.
Voilà, il y a ça. Et puis bon, il a montré ce qu'il savait faire avec sa troupe de comiques habituelle. Il a fait de la vanne plus que référencée au 15e degré avec Astérix. Là, c'est vrai qu'il laisse tomber le côté opaque de certaines vannes très plus du Scary Movie que du ZZ. Mais là, c'est vraiment du Z à Z. Il y a quelques références, mais c'est vraiment plus bon enfant, plus public jeune et plus tablé. On va dire que c'est plus le chat de Shrek que la mouche qui pète des nuls, quoi. C'est vraiment premier degré. Tu vois que la boule de poil, t'as envie de la prendre en peluche et de dormir avec. Jamel, c'est vraiment un personnage vraiment plus BD. Voilà, qui va pas faire de l'humour à la Dieudonné avec du Dark Vador, même s'il y a quand même des références à Star Wars dedans, mais c'est vraiment beaucoup plus succinct. Et voilà, donc le film fonctionne beaucoup plus sur du premier degré, les personnages sont hauts en couleur. Alors, évidemment, mention spéciale à alors Fred Testo, il incarne un personnage, je ne vous dis rien de plus, mais on voit que c'est jubilatoire à jouer pour un acteur, et ne manquez pas, mais surtout, alors... vous verrez dans les articles, dans les recherches que vous ferez sur Internet, quand vous allez demander leur avis à des gens qui ont vu le film, tout le monde vous parlera du moment culte avec Lambert Wilson. Ne loupez pas le personnage de Lambert Wilson dedans. Je pense que les réalisateurs qui sont devenus frères et sœurs, les Wachowski, ils vont tomber de leur chaise quand ils verront ce qu'est devenu Lambert Wilson dans ce film et ce qu'il fait. Parce que ceux qui étaient restés avec Lambert Wilson sur le personnage du Mérovingien dans Matrix, là, ils vont avoir un choc cardiaque. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Vous verrez cette scène, mais ultime, qui entre guillemets, qui clôt le film, mais c'est vraiment à la fois du n'importe quoi et du grandiose. Voilà, Lambert Wilson, j'en dis pas plus. Ensuite, il y a plein de petits gags, de comiques de situation, ça bouge dans tous les sens, voilà. Et puis, les effets spéciaux sont très réussis également. Voilà, le Marsupilami, il faut aimer l'humour, vraiment, où c'est, on y va, franco de port, dans le beau gros humour. Mais c'est vrai que j'ai mentionné tout à l'heure les castings TF1, mais au début tu te dis bon voilà, casting TF1, t'as Team Seat, tu vois pas trop ce qu'il pourrait faire avec Alain Chabat, tu as voilà le casting hype du moment, Fred Testo, Géraldine Nakache, bon voilà, c'est pas trop du décalé, c'est vraiment du casting installé qui a déjà les honneurs des médias, mais ça passe. Team Seat, on l'a tellement vu mal dirigé ou cabotiné, là non, il cabotine aussi, ouais. Mais il est franchement bien. parce que je sais pas, il a peut-être que Shabba a le don de mêler les gens dans son délire ou de rendre potable des acteurs qui ont l'habitude de faire du too much. Mais là, le too much est érigé en règle et c'est du too much shabbatien, shabbatesque. Voilà, je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est vrai que c'est l'humour très gros nounours de Shabba qui fonctionne à plein régime. Donc les enfants vont se bidonner, les plus grands vont y aller, ils vont peut-être être un peu déboussolés par l'absence totale de cynisme et vraiment un côté chatoyant dans le film qui te caresse dans le sens du poil pour te dire voilà, tu oublies tes soucis, tu vas là, tu vas te marrer, mais pas te marrer aux dépens d'autres gens ou de dire ah, regardez comment on vous prend au sérieux, regardez, on sait que vous êtes intelligent, on va vous mettre plein de petites vannes et tout, un peu grinçantes. Mais non, il n'y a pas de grinçant du tout, c'est vraiment, il faut y aller, il faut lâcher les vannes, quoi, voilà. Et bon, c'est le cas de le dire. Et puis bon, évidemment, comme toute comédie de ce genre-là, il faut rester pendant le générique de fin, bien sûr, jusqu'au tout dernier plan. Voilà, il faut accepter, voilà, d'être à la fois actif et retrouver voilà l'homme d'enfant. Et après, ça passe tout seul. Sur la piste du marsupilami, voilà, le film de et avec Alain Chabat, voilà, recommandé à 2000%. C'est le genre de film qui vous met la patate, comme était Astérix en son temps, comme pouvait être le premier Very Bad Trip, comme pouvait voilà ce genre de film qui tu oublies tout, tu sors du film, t'as envie de te marrer avec tes potes, de boire des coups et de surfer sur cette vague d'optimisme pendant une semaine. Voilà, c'est au moins le film réussit son coup sur ce coup-là. Voilà, sur la piste du marsupilami qui est sorti le 4 avril, donc c'était mercredi dernier, qui sera à l'affiche pendant pas mal de temps encore, qui est parti pour faire un gros carton.
Ouais, ouais, box-office. T'as des chiffres déjà depuis la sortie là.
Premier jour, 250 000 entrées.
Ouais, ils ont dit que c'était pas extraordinaire, mais enfin que c'était pas mal quoi.
Voilà, qui avait pris les rênes faciles du box-office, qui avait battu pas mal de gros films aussi, mais qui a pas péter les records.
Non, pour l'instant quoi. Mais enfin bon, de toute façon, ce genre de film, c'est sur la durée. Hein.
Voilà,
il va être amorti.
Non, mais t'inquiète, le bouche à oreille, les gens qui vont, parce que ça va être du sport, hein, de parler du film sans dévoiler les gags.
Ouais.
Parce que là, c'est vraiment le partie des films où tu dévoiles quoi que ce soit, ça te prive le plaisir pour les futurs spectateurs. Donc voilà. Après, on peut en discuter après quand les gens l'ont vu. Ça facile, mais tu peux pas en parler à des gens qui l'ont pas vu, c'est impossible.
D'accord. Voilà,
si t'as du respect pour eux.
Si vous allez manger dans votre famille ce week-end et qu'il y a des gens qui ont vu le marsupilami, eh bien décommandez-vous, parce que sinon ils vont vous pourrir le film. Ils vont tout vous révéler entre la poire et le fromage, on le sait bien et tout, quand les langues se délient avec l'alcool aidant. Hein, alors laissez tomber, non, ne le faites pas. Comme ça vous gardera le film intact. Ah mais ça c'est quoi ça?
Alors ça c'est partie de la BO d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, duo de choc entre Jamel Debbouze et Snoop Dogg.
Ouais, et c'est le précédent donc de Chabat.
Le pré-précédent, ouais. Parce qu'il a fait rrr entre temps.
Ah oui c'est vrai, ouais. Qui passe d'ailleurs sur Canal Plus Family ce mardi prochain donc à 20h45, Mission Cléopâtre. No matter where you at, in the family or the ghetto, we keep the hot metal, settle down, and pass it around, cause we having a good time while I'm in y'all town, franchising with french fries with french thighs, D-O-double-G and I'ma do it to you 10 times, Flizzy, Operation Cleopatra, coming right at you, J-A-M-E-L, I'm trying to holler at you, homie, pick up your cell. D-D-P-G, hell yeah, I got some suckers on my tail. Could you make a bell? Ça fait plaisir. We're gonna party. Oh, let's get the party started. Let me just beat you. We're gonna party. We're gonna shake it up. Do it to you. We're gonna party. Yeah. Let's get the party started. This is it. We're gonna party. We're gonna set the money on the floor. You say you wanna party with us? Well, come on, baby, let me see you get up. Tous les jours, y'a des gens qui m'ignorent. Snoop et moi, on aimerait bien les voir un peu qu'une minière. Mais pas la peine, tu vénères.
juste leur faire. Check it out. Yeah. We're gonna party. Yeah.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries. Nanana, nanana.
Et l'actu télé présentée par Du Sport, vous êtes sur Radio FMR 89.1 MHz dans le supplément week-end.
À 13h36, 37 presque. On va attaquer avec bien déjà la refonte de votre télé numérique terrestre et l'arrivée de prochaine, hein, c'est pour l'automne quand même. Mais c'est officiel, ça y est, ils ont choisi, hein, le CSA a donc donné la liste des 6 nouvelles chaînes qu'on pourra voir donc sur la TNT, des chaînes HD s'il vous plaît. Alors pour ceux qui n'ont pas de téléviseur HD, ils ont
c'est ballot.
Mais tant pis, c'est comme ça. Alors il y a un petit peu de tout. Alors il y a quand même eu un gros fight, hein, pour obtenir l'une de ces 6 fréquences, quoi. Il faut le dire quand même, puisque au départ, eh bien, il y avait 34 projets.
Ah ouais.
Ouais. Si. 34 projets donc ces 6 chaînes HD gratuites sont dans l'ordre HD1. Alors ça c'est un truc de TF1 bien entendu, hein.
Comme ça n'avait pas assez.
Oui, uniquement réservé et consacré à la fiction avec on va dire
CSI.
Oui, mais pas que ça, c'est peut-être aussi une chaîne pour caser un petit peu les productions obligatoires françaises. Ils sont obligés d'avoir un certain nombre de consacrer une certaine part de leur budget à des fictions françaises, hein, à de la création originale. Voilà, c'est comme ça entre guillemets, création originale française. Donc ça servira certainement un petit peu de corbeille, tu vois quoi. Allez hop,
oui.
On le met là, on fait des rediffusions comme ça tourne encore. Ensuite, qui dit TF1 dit le concurrent Full Frontal, M6 bien sûr, avec 6 terres. Ouais, ça s'invente pas.
Il y avait déjà W9.
Oui, non, mais maintenant il y a 6 terres. Donc M6 qui veut rassembler toute la famille devant l'écran avec magazine, fiction, découverte, bref, il prévoit d'allouer 30% du budget de Sister à des productions originales inédites. Alors tout dépend de la taille du budget aussi, hein, c'est ça.
Hein.
Ensuite on a Chérie HD, tu connais Chérie FM.
Ouais,
voilà, nous aurons une chaîne spéciale femme bien entendu. Chérie HD. Alors la bonne nouvelle, ça va te plaire quand même, c'est que l'équipe arrive également, avec l'équipe HD, donc on connaissait l'équipe TV et tout. Alors là, ça va être un petit peu différent d'ailleurs, parce qu'il y aura quand même pas mal. Bien sûr, il y a toujours, c'est le principe de la chaîne info, mais il y aura plus de documents, de documentaires, voire de diffusion en direct, comme ils le font, hein, de championnats un petit peu spéciaux, deuxième division anglaise de foot et des trucs comme ça, quoi. Donc,
championnat de troisième division serbo-croate de pétanque.
Il y a également RMC Découverte. Alors là, ce sera plus une chaîne de documentaire.
Ça, c'est bizarre parce que RMC est plutôt connu pour du talk et du sport. Et de l'info, et là c'est vraiment de la découverte, c'est des trucs qu'ils font pas du tout à la radio.
Non, mais enfin bon, c'est également une espèce de fourre-tout hein, qui permet à ceux qui sont les vrais véritables propriétaires d'AMC bien de pouvoir y balancer leur fond de panier, leur fond de tiroir. J'exagère un petit peu. La dernière, c'était vous, TVOUS, la chaîne de la télédiversité. Alors, c'est la chaîne qui peut paraître la plus intéressante parce que, c'est une chaîne qui est créée, qui est proposée par Pascal Ouzelot. Pascal Ouzelot, c'est un ancien de Canal+, qui avait créé Pink TV, la chaîne gay, donc, et qui, donc, par cette nouvelle chaîne TVOU, se propose de faire un petit peu l'équivalent de ce qu'il fait avec Pink TV pour les gays, mais là, pour l'ensemble de communauté, on va dire, entre guillemets, quoi, hein, c'est-à-dire ça peut aussi bien toucher avec des thématiques sur le racisme, avec des thématiques sur l'exclusion sociale, l'exclusion de la femme dans le travail. Enfin bon, ok, ça peut prendre vraiment des trucs très très larges, donc c'est peut-être la chaîne qui sera la plus intéressante des six, de ces six nouvelles chaînes qui débarquent sur la TNT, mais pas avant cet automne en général. Et en plus, ça ne couvrira au départ que 50% du territoire, pour ceux qui ont un décodeur TNT classique et tout. Par contre, pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sont câblés satellite ou ADSL, il n'y a pas de problème. Ce sera directement à l'automne que vous pourrez voir ces nouvelles chaînes. Donc là, du côté des séries, une seule série inédite, qui s'appelle The Gates. Alors bon, j'étais allé chercher là vite fait quoi, voir si j'avais plus de renseignements sur cette série qui va être diffusée. Alors la première diffusion c'est ce soir en fin d'après-midi 17h10 sur TF6. Alors The Gates avec Frank Grillo et Marisol Nichols dans les rôles principaux ainsi que Rona Mitra, mais qui a un rôle un petit peu plus secondaire.
Ah, Rona Mitra, je connais.
Mais un rôle de méchante, tu vas comprendre de quel genre de méchante il s'agit tout de suite après. Alors Frank Grillo, on connaît, c'est un mec qui est habitué à jouer des flics ou de gangsters. Ouais. Il a une bonne gueule et tout, ça va, ça peut le faire. Marisol Nichols, on l'avait découverte dans cette série assez intéressante sur les hispanos à Los Angeles, du côté pauvre, dans Resurrection Boulevard. Après, elle avait également joué dans une série policière dont je me rappelle pas le nom. Beau petit brin de jeune fille. Elle doit avoir la trentaine tranquille, mais c'est pas mal quand même. Et c'est l'histoire d'un flic qui vient de Chicago et qui va arriver dans une petite ville américaine, mais genre les petites villes qui sont renforcées avec ses portails d'entrée, un gardien, tout le bordel. Bref, ultra sécurisé. Et il va se rendre compte qu'il y a quelques meurtres qui sont produits, mais des meurtres un petit peu bizarres, parce que les victimes ont des trous dans le cou et ça saigne.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est un espèce de mélange.
Je vois ce que peut-être Rona Mitra dedans, vu de quelle série, de film elle
s'échappe.
Tu as compris.
Donc, il s'agit de vampires. Ça a été diffusé sur ABC il y a 2 ans, en 2010. Par contre, ça n'a tenu qu'une saison. Encore une énième variation sur le thème du vampirisme.
Oui, comme si ça n'avait pas assez.
Oui, mais ça peut être intéressant. Faut voir, des fois, on tombe sur des bonnes surprises. Donc, ce soir à 17h10. Mais par contre, si vous voulez le voir en prime time, il y aura 4 épisodes qui seront diffusés en prime time mardi prochain sur TF6. Sinon, au niveau des séries inédites complètes, non, il y a plus rien. Par contre, il y a des saisons inédites, dont ce soir sur M6, la deuxième saison inédite de Hawaii Five-O.
Ah oui.
Et également, jeudi prochain, la 8e et dernière saison de Desperate Housewife. Ça, c'est sur Canal+, bien entendu, à partir de 20h55, jeudi prochain.
Ah, c'est jeudi maintenant, Desperate.
Oui, mais c'est la case du jeudi, la soirée du jeudi est consacrée aux séries sur toutes les grosses séries américaines de Canal+. Passe le jeudi, c'est vrai pour Dexter, c'est vrai pour d'autres séries.
Oui, mais tu étais sur Canal, oui. Canal+, je pensais que c'était M6 parce que c'était plutôt le mardi, ouais, d'accord.
Bah ouais.
Je suivais pas, pardon.
C'est pas grave. Allez, il est 12h45, c'est Radio Éphémère qu'on écoute dans le supplément week-end, une petite pause musicale, avant d'attaquer les films de la semaine.
to the Wild Wild Guest. Welcome everybody to the Wild Wild Guest. Welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. Sunshine State, where the bomb and Tempe. A state where you never find a dance floor empty. Never find a dance floor empty. Never find a dance floor empty. And Pimp Speed, on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving fiends. On a mission for them greens. Greens. California, West Coast. Looking like a Rob Liberace. It's all good. From Diego to the Bay. Your city is the bomb. City making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Trey putting it down for California. Yeah.
California, West Coast.
California love.
Éphémère toujours 89.1 MHz avec des films, les films de la semaine à présent. Alors polar et western, hein, parce que bon bah c'est des genres que j'affectionne particulièrement.
Ah t'as oublié les péplums.
Hein. Oui non mais bon bah il y en a pas figure-toi. Hein, en jetant un coup d'œil et tout, j'en ai pas remarqué beaucoup. Je crois qu'il y en a même pas un cette semaine, donc c'est vite plié. Comme ça, ça commence ce soir avec sur Canal Plus à 20h50. Eh bien. Un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il est sorti l'année dernière, donc c'est une des premières diffusions sur Canal+. C'est La Défense Lincoln de Brad Furman avec Matthew McConaughey, Ryan Phillippe, Marisa Tomei et Josh Lucas, hein, qui racontent les pérégrinations et les aventures de l'avocat Haller, Mickey Haller. Donc, et c'est tiré de l'œuvre de Michael Connelly.
Ah, bah,
Michael
tiens.
Connelly, bah, qui lui est qu'on connaît plus surtout pour ses bouquins sur Harry Bosch, Hieronymus Bosch. Hein, dont on a tiré au cinéma Créance de sang par exemple, un autre dont je me souviens même pas, enfin bon il en a quand même écrit pas mal, il en a écrit une douzaine ou une quinzaine hein, uniquement sur Harry Bosch, et il a écrit un ou deux one shot, c'est-à-dire des histoires qui sont d'une pièce comme ça où il n'y a pas de Harry Bosch, qui ne concerne pas Harry Bosch, et il a écrit également bien deux histoires avec ce fameux Mickey Haller, donc ce détective, enfin cet avocat qui est plutôt un mec qui n'a pas de bureau. Alors c'est sa particularité, c'est pour ça qu'on l'appelle la Défense Lincoln, c'est parce qu'il travaille dans une Lincoln Continental, une grosse bagnole, c'est son bureau en fait quoi, sa bagnole. Il a un bureau fixe bien entendu, mais il n'y est jamais, hein. Il y a que sa secrétaire qui y est et il va ramasser les petits papiers et tout, où il se fait envoyer les messages par SMS pour savoir ce qui se passe au bureau, mais il n'y est jamais, il est tout le temps dans sa bagnole ou bien entendu en train de visiter ses clients à la prison ou en train de plaider au tribunal. Bien sûr, il fait son boulot quand même. Il défend surtout les mecs des, on va dire des castes opprimées, à savoir les chicanos, les motards. Enfin bon, vraiment tous les gens que les flics n'aiment pas du tout, quoi. Et qui, qu'il vaut mieux pas défendre. Alors qu'il pourrait défendre plein d'autres gens, se faire pas mal de pognon. Et lui, non, il préfère garder sa petite clientèle qui lui est fidèle, tranquille. Et des fois, bon, ça lui arrive également de travailler à l'œil et tout dans le cadre de l'aide judiciaire obligatoire et tout, donc et ça lui pose absolument pas de problème. Et là, pour ce cas-là, bah, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il doit défendre un jeune fils de riche, le mec immensément riche, et puis bon, il y a eu un crime absolument horrible qui a été commis, et tout laisse à croire que c'est le mec qui l'a commis. Mais vraiment, il y a le mec, il a le sang de la victime sur lui. Enfin bon, il y a des preuves incroyables, incontournables. Donc on lui demande quand même de défendre ce type-là, alors que lui, bon, généralement, c'est pas son boulot. Il refuse dès le départ et tout, mais on arrive à le convaincre. Je te dirai pas comment.
Par quel moyen
hein, mais c'est quand même assez intéressant. C'est toujours vachement bien foutu, c'est toujours vachement bien ficelé, parce que c'est du Michael Connelly. Donc tu t'attends à ce qui va se passer telle chose, mais là non, c'est pas du tout comme ça. Non, tu t'es complètement planté et tout quoi. Il faut revoir toutes tes priorités c'est assez bien foutu quand même. Et il y a une petite apparition de Harry Bosch. Et là, pour une fois, si tu veux, comme Harry Bosch est de l'autre côté, c'est-à-dire que lui, Harry Bosch, il essaye de foutre en prison des mecs, alors que Michael Herr, lui, il essaie de les faire sortir de tôle. Donc, ils sont pas du tout potes au départ.
D'accord.
Tu vois, et il va y avoir une histoire dans un autre bouquin qui suit d'ailleurs cette défense Lincoln, mais du côté Harry Bosch, et qui va révéler quelle est la nature de leur lien à tous les deux. Et c'est assez bizarre. Enfin, bon, je vous laisse la surprise quand même et tout. C'est quelque chose que j'ai déjà révélé dans cette émission il y a pas mal de temps. Mais enfin, bon, pour les gens qui sont pas trop au courant et tout, toujours intéressant de découvrir ce genre de choses, surtout après tant de bouquins. C'est-à-dire qu'on le découvre au bout du 12e ou du 13e bouquin qu'il y a, il y a quelque chose qui les relie, quoi, ces deux-là, quoi. Alors que tout les oppose de par le boulot qu'ils font et de par leur histoire personnelle également.
Si vous voulez en savoir plus sur les liens bizarres qui unissent ces deux personnages, essayez de réécouter les interventions de Dusport.
Ah oui, oui, bah alors là, bon courage, les gars. Donc ça, c'est la défense Lincoln, c'est ce soir. Donc sur Canal+, à partir de 20h50, un bon petit polar, on va dire, assez sympathique. Voilà. Pas tellement de flics, puisqu'il s'agit d'un avocat en plus.
La bande-annonce m'avait bien aiguisé ma soif de voir ça.
Donc, oui, et puis bon, bah ok, hein, le casting, sans faute, hein, McConaughey, Ryan Phillippe, bon bah ok, ça va, ça le fait, Ryan Phillippe dans le rôle du jeune enfoiré.
Ouais, ouais, le jeune enfoiré qui est problème. Super riche. Ouais, il sait très bien le faire.
Il sait très bien le faire, il n'y a pas de problème. Alors, ce soir également sur RTL9, du western pur et dur, 20h40, alors Sierra Torride, ça tu connais quand même. Ça,
non,
tu connais.
Je l'ai pas vu celui-là.
Alors, Don Siegel avec Clint Eastwood, bon, eh ben ils ont également fait du western. Eh oui, c'est Sierra Torride, donc en 69, avec la musique d'Ennio Morricone quand même, aux côtés de Clint Eastwood, Shirley MacLaine. Alors, c'est un buddy western, c'est-à-dire, bon, bah c'est l'histoire du couple, et c'est démêlé à travers ils sont au Mexique et ils se retrouvent embringués dans une rébellion, donc ils se retrouvent embringués du côté des rebelles mexicains, quoi. Donc bon, c'est pas mal, c'est assez sympathique et tout, c'est un truc mineur, on va dire, dans l'heure de Don Siegel, mais bon, ça se laisse regarder quand même pour le duo que forment justement Clint Eastwood et Shirley MacLaine. C'est ça qui est assez intéressant. Sur TCM ce soir, TCM qui démarre à partir de ce soir d'ailleurs, eh bien une thématique et une rediffusion de l'intégrale de Jacques Tourneur, le fils de Maurice Tourneur, quoi. Et Jacques Tourneur, le mec on connaît parce que c'est lui qui a fait des films tels que Cat People, la Féline, hein, en français, qui a fait après L'homme léopard et qui en a fait beaucoup d'autres, hein, donc et là bien c'est une rétrospective intégrale qui lui est consacrée tout au long du mois d'avril sur TCM. Alors ça commence ce soir avec déjà un western, Un jeu risqué de Jacques Tourneur, c'est en 55, avec Joel McCrea, Vera Miles et Lloyd Bridges. C'est l'histoire d'un shérif qui décide de raccrocher et tout, quoi, mais au dernier moment, parce que bon, il commence à en avoir un peu ras le cul, quoi. Normal. Mais au dernier moment, il y a quand même des gens. Alors là, c'est le motif un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que ça marche, quoi. Qui lui dit non, écoute, il faudrait que tu viennes ici. Je crois que c'est dans le Kansas. On a des problèmes et tout. Allez, c'est pour la dernière fois. Puis après, tu peux te ranger, quoi. Enfin bon, puis le mec, il refuse au départ, mais il accepte quand même. Enfin bon, c'est toujours un petit peu la même histoire. Mais c'est pas mal, c'est sympa et tout. Donc avec Joel McCrea, un excellent acteur, et Lloyd Bridges, le papa des autres.
Oui, de Beau et de Jeff.
Et à l'époque, c'était un jeune premier, hein, Lloyd en 55.
Tu peux dire Lloyd, je pense.
Lloyd, ouais. À 22h, L'homme léopard. Donc, et L'homme léopard, en fait, c'est la suite. Ça ça a été tourné l'année suivante de Cat People, de La Féline. Après, il avait fait la version masculine, en fait, L'Homme Léopard avec Danny O'Keefe et Margot en 43, donc de Jacques Tourneur, c'est sur TCM ce soir. Ou sinon, il y a également une soirée thématique, enfin bon, il y a deux films hein, sur la même thématique ce soir sur Orange Cinéchoc. Et ça, c'est intéressant de voir un petit peu le... Moi, j'ai trouvé cette programmation vraiment rigolote, parce que ça montre, on va dire, deux aspects d'un même phénomène. Tout d'abord, la diffusion d'Aniki, mon frère, de Kitano à 20h45, suivie d'à 22h30 de la diffusion de Yakuza de Sidney Pollack avec Robert Mitchum. Alors, c'est assez intéressant parce que, bon, bah, déjà, il y a ces deux époques complètement différentes. Yakuza, c'est en 75, le Kitano, c'est en l'an 2000, donc il y a 25 ans d'écart. Et en plus, bon, bah, il y a les deux vues du gangster, du Yakuza, il y a la vue, on va dire, intramuros de Kitano, hein, et la vue extérieure de Sidney Pollack, c'est-à-dire le ricain qui va essayer de comprendre un petit peu le monde des Yakuza.
Mais ça, c'est travers du, en plus, c'est totalement opposé, puisque de la version de Pollack, c'est un, ouais, là, qui va essayer de comprendre de l'extérieur, ouais. Le film de Kitano est assez rare dans sa filmo, puisqu'il fait venir en Yakuza aux États-Unis.
C'est ça, ouais, donc c'est pour ça que je trouve cette programmation assez intéressante, quoi, en soi, quoi, je veux dire, cinéphiliquement parlant, parce que bon, bah, c'est vraiment deux trucs qui peuvent se regarder l'un après l'autre, à mon avis, ça va être assez intéressant.
D'ailleurs, donc, dans le film de Kitano, il y a une apparition, d'un acteur pour les fans de House, qui est Omar Epps, qui était tout jeune à l'époque, beaucoup plus, je fais Maracay et tout, alors que, voilà, pour ceux qui connaissent Enforman, voyez ce film.
Ouais. Donc c'est ce soir sur Orange Cinéchoc à partir de 20h40. Demain sur France 3, le retour de l'inspecteur Lewis. Alors on l'avait laissé, il y a pas si longtemps que ça, hein, puisque les premiers téléfilms a été diffusé il y a un petit peu, pratiquement une année. Alors l'inspecteur Lewis, qui c'est ? Eh bien, c'est l'homme qui est, le détective, on va dire, le sergent, parce qu'au départ il est sergent, le sergent Lewis, qui est orphelin de son inspecteur principal, Morse, bien entendu. Et inspecteur Morse qui est mort, ça tout le monde le sait, hein, il est mort d'une crise cardiaque, il a eu des problèmes de rein, il avait le diabète, on l'a opéré du foie et tout, c'était un alcoolique et tout. Bon, il crève quand même parce que bon, l'auteur, au bout d'un moment, se dit bon, j'en ai marre de ce mec, donc je le fais crever. Et c'est ce qui arrive. Et donc, son fidèle second, eh bien, c'est le sergent Lewis, hein, avec Morse, mais là, eh bien, il prend du galon. C'est lui le patron maintenant, c'est lui le boss des enquêtes criminelles, donc c'est l'inspecteur Lewis. Et bien sûr, il a également un second interprété par Lawrence Fox, hein, qui joue donc le rôle du détective Hathaway, qui est son go. Et alors c'est assez rigolo parce que bon, autant Kevin Whatley, qui interprète le rôle de l'inspecteur Lewis, apparaissait comme étant, bon, on va dire, vraiment le second qui reste vraiment toujours dans la limite, qui est très procédurier, qui... faut pas que ça dépasse et tout, alors que Morse était un vrai bordélique qui faisait tout et n'importe quoi, qui arrivait bourré, enfin bon, mais qui était quand même vachement bon. Autant là, c'est lui qui passe premier, donc c'est à lui qu'incombe la responsabilité des enquêtes. Donc il se permet des fois des petits, parce qu'il se rend compte que ben du côté de la hiérarchie, c'est un petit peu mollasson, ça suit pas, et que des fois il faut passer outre certaines recommandations. Et à côté de lui, bien il y a Lawrence Fox, donc le détective Hathaway, qui lui fait partie de la jeune génération, encore vraiment jeune génération, c'est-à-dire les mecs hyper décomplexés et tout, le mec qui fume et tout sur les scènes de crime, tranquille. Alors déjà, bon bah à la télé ça le faisait pas trop parce que bon dans Morse personne ne fumait, que dalle, c'était vachement mis en retrait. Alors que là tu vois bien le mec qui fume et il fume clope sur clope, quoi. C'est-à-dire que bon bah le type il doit être au minimum au paquet par jour, tranquille, et il a un rôle très très intéressant parce qu'il est nettement plus actif des fois, il prend le devant, il essaie de prendre le devant par rapport à l'enquête sur son supérieur qui est l'inspecteur Lewis. Donc ça donne une dynamique qui est très très intéressante, et bon, en plus avec bon une actualisation, hein, de ce que peut être le crime actuellement, quoi, ce qui fait que bon bah maintenant c'est plus des vieilles rambières qui décèdent d'un coup de poignard dans leur petit château, mais c'est plutôt des crimes sordides dans la rue, un petit peu trashos quand même, quoi. Donc ça le fait quand même pas mal. Alors cet inspecteur Lewis là, il est complètement inédit, donc hein, il date de l'année dernière, de Bill Anderson avec Kevin Whatley et Laurent Fox, qui par ailleurs est également le monsieur qui a fait un enfant à Billy Piper il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui sont en couple.
Et on aura réussi à parler de Billy Piper sans Xavier.
Eh oui.
Mais trop tard. Elle est avec Laurence Fox. Désolé, les gars.
D'accord.
Eh ouais. Donc, c'est demain soir, hein. C'est, l'inspecteur Lewis, sur France 3 à partir de 20h35. Alors, sur Arte, bizarrement, demain soir, il n'y a pas de thématique consacrée avec un film et tout ça. Non, c'est un documentaire. Mais par contre, en deuxième partie de soirée à 22h20, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ce documentaire est très intéressant. Car il concerne un des grands acteurs de l'époque hollywoodienne, vu en long, en large et en travers, et pas forcément toujours à son avantage. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est quand même assez critique, on dévoile pas mal de choses. Hein. C'est Errol Flynn, le diable de Tasmanie, un documentaire qui date de 2006, hein, de Simon Nash, mais qui est vraiment très très intéressant. Sur Direct 8, demain soir à 20h45, le film de Jean-Paul Rouve, Sans armes, ni haine, ni violence, avec Gilles Lelouch, Alice Taglioni, hein, sur la vie d'Albert Spaggiari, donc bon petit film, bon petit polar, suivi d'un très très bon polar, normal, hein, c'est tiré d'un bouquin de Jim Thompson, le guet-apens de Peckinpah en 72, avec McQueen, Ali Magro, entre autres. Lundi, sur Canal Plus Cinéma, L'élite de Brooklyn, ça c'est un film très récent, hein, qui date de 2009, donc, et je crois que c'est déjà la semaine dernière où je disais qu'Antoine Fuqua est capable de faire des merdes et des conneries, pas des merdes, bouses pas possible. Et là, il s'en sort bien avec ce film, parce que déjà...
Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que ça faisait partie des bouses.
Non, parce que déjà, il a un casting quand même haut de gamme, et que le mec arrive pratiquement, je dis bien pratiquement, je ne dis pas entièrement, à réhabiliter Wesley Snipes. Donc... tu vois,
ah ouais,
il y a du boulot. Bon, il y a Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, le casting, il y a rien à dire, hein.
D'accord.
Attends, et il y a encore des seconds rôles. Tu te dis, ah bon, ah ouais, quand même, quoi. Et c'est pas mal, hein. C'est ça raconte l'histoire de trois histoires croisées de trois flics à Brooklyn, donc. Et c'est pas mal, c'est assez bien foutu. Donc c'est sur Canal Plus Cinéma. Lundi, à partir de 20h45, sinon sur Arte en même temps, lundi prochain, l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison et tout, quoi. Comment pourrir toute une génération de cinéastes qui vont nous foutre du split screen à fond les manettes pour tout et n'importe quoi, alors que c'était bien dans un film, mais ça suffit. Hein? Ok? D'accord. Oui,
Ou chez De Palma.
Oui. Alors, c'est l'affaire Thomas Crown, c'est sur Arte, lundi à 20h40, sur Energy 12, le dernier Cheyenne de Tab Murphy, avec Barbara Hershey, Tom Berenger et Kurtwood Smith, qui est une histoire contemporaine, mais qui concerne des fouilles archéologiques concernant les Indiens et tout. Et comme ça se passe dans une réserve, il y en a qui sont pas contents. Tu vas voir, ça va dépoter. Mais par contre, lundi, tout le monde sait que c'est l'anniversaire, bien entendu, de Steven Seagal. 60 ans lundi, Steven Seagal.
Si.
Et à cette occasion, alors on peut également souhaiter, par exemple aujourd'hui, on peut dire bon anniversaire à Russell Crowe, qui a 48 ans aujourd'hui, à Jackie Chan, qui a 58 ans aujourd'hui, à Francis Ford Coppola, qui a 73 ans aujourd'hui, voire à James Garner, qui a 84 ans aujourd'hui.
Ah ouais, alors lui, ouais.
Voilà, mais par contre, faut attendre lundi donc pour souhaiter un bon anniversaire à Steven Seagal. 60 balais quand même, te rends compte, putain, hein, ça le fait, quoi. Et à l'occasion de cet anniversaire de Steven Seagal, sur 13e rue, c'est toute la journée que t'as
de Steven. Oh là là, on va pouvoir se goinfrer
à fond les manettes. Avec, à partir de 11h10 du matin, la première saison de True Justice, en direct, en intégral. Avec comme fil rouge également, eh bien, une biographie qui dure quand même, un documentaire biographique qui dure quand même presque 50 minutes, qui est diffusé à 12h40 ou à 19h45 ou à 2h10 du matin. Et à partir de 20h45 lundi, eh bien, Trou de justice inédit, bien entendu, suivi de deux téléfilms, Le prix du sang et Dangerous Man. Alors par contre, il y a peut-être le premier qui est pas trop mal, Le prix du sang, une histoire de mafia, de vengeance bien sûr, avec Lance Henriksen dedans, quoi. Mais par contre, le deuxième, à Dangerous Man, bon, tu peux laisser tomber sans trop de dommages. Mais sinon, quand même, en avance, deux jours en avance, joyeux anniversaire.
Ouais.
Allez, vas-y. Ciné plus classique, toujours lundi à 20h45, Le bataillon des lâches de George Marshall avec Glenn Ford. Melvin Douglas, non, c'est pas Michael, qui existait même pas dans Les yeux de rêve. Melvin Douglas, Johan Blondell et Stella Stevens, quand même, Stella Stevens, Flamingo Road, bien sûr, hein, mais là, elle était vachement plus vieille, parce que là, c'était en 64. Et sur la chaîne Polar, lundi, eh bien, Stormy Monday de Mike Figgis, excellent petit polar, hein, avec Melanie Griffith, Tommy Lee Jones, et un des premiers rôles, on va dire, un des premiers vrais rôles de Sting au cinéma, et dans lequel il est vraiment très, très convaincant. Mardi, sur 13e rue, encore du Steven Seagal, avec Jeu Fatal de Roel Reiner en 2008.
Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que toute cette vague de films récents, de téléfilms, en fait, à chaque fois que tu nous en sors un nouveau qu'on soupçonnait même pas l'existence.
Oui, des fois j'en découvre, je me dis, mais c'est pas possible de tourner autant de trucs que ça.
Il en fait beaucoup, le mec.
Effectivement, bah, il en tourne vraiment énormément. Par contre, parmi ceux qui ont fait sa légende, Échec est mort, diffusé lundi sur 13e rue à 22h25, de Bruce Malmuth avec Steven Seagal qui a de la barbe, William Sadler et Kelly LeBrock qui a été sa femme pendant un bon bout de temps, on va dire quand même. Mardi, toujours sur TCM à 20h40, alors là c'est du classique et c'est du très grand cinéma quand même, un Si doux visage de Otto Preminger en 52 avec Robert Mitchum et Gene Simmons. Sur la chaîne Polar, mardi à 21h, Tueur au karaté de Barry Sheer avec Robert Vaughn et David McCallum. Ils sont en train de diffuser, chaque semaine, ils en diffusent un autre sur la chaîne Polar. Ce sont les téléfilms qui ont été sortis qui sont issus de la série Les Hommes de l'Uncle, donc avec justement Robert Vaughn et David McCallum. Et alors, ce qui est assez rigolo, je me suis amusé à regarder le film de la semaine dernière avec Robert Vaughn et David McCallum parce que je connaissais que la série. Et tu as toujours le même doublage d'époque et tout, ce qui fait que t'as les gens quand ils disent l'uncle, ils disent les hommes de l'oncle, tu vois, avec l'accent bien français. Donc ça a son charme, on va dire. Mais par contre, ça se laisse assez bien regarder quand même, hein, pour les trucs de l'époque et tout. Et puis on appréciera la technique de karaté de David McCallum qui joue bien entendu, vu son look, un agent qui vient de l'Est, Ilya Kuryakin.
D'accord.
Hein, bien entendu, quoi.
De la savate.
Et Robert Vaughn s'appelle Napoléon Solo. Ah oui. Donc ça, c'est d'accord. Sur la chaîne Polar mardi prochain à 21h. Sur Orange Cinéchoc, alors là, tu vas adhérer à fond les manettes, et je veux dire facilement, tu vas voter. 20h40, élection 1 suivie d'élection 2 de Johnito. Donc,
Simon Yam, nous écoute.
Alors mercredi généralement il y a que des bouses, mais j'ai réussi à trouver des trucs vraiment très très bien quand même. Alors je vous avais parlé la semaine dernière, non tu n'étais pas là, mais j'en ai parlé, hein, de cette diffusion de Zen, une série de téléfilms qui concerne ce détective qui s'appelle justement Zen, Aurelio Zen. Et c'est une série de téléfilms qui est très récente, hein, qui date de 2010-2011, anglais, mais qui concerne en fait un héros, Aurelio Zen, qui lui est un flic italien. Alors c'est né de l'œuvre de Michael Dibdin. Michael Dibdin qui est quand même assez vieux, il est tellement vieux qu'il est déjà mort d'ailleurs, il est mort il y a 5 ans, à l'âge de 60 balais quand même. Alors, il a écrit pas mal de bouquins. Son premier bouquin, j'en ai déjà parlé, j'en reparle de temps en temps. En fait, c'est un pastiche d'un bouquin de Sherlock Holmes qui s'appelle The Last Sherlock Holmes Story, qu'il a sorti en 78. Ensuite, il a fait d'autres bouquins un petit peu à la manière d'eux, parce qu'il avait fait un bouquin à la manière de Agatha Christie. et comme j'ai peur de me tromper par rapport à la traduction anglo-française, vu que j'ai que la traduction anglaise là, je ne vous donnerai pas le titre, mais il est surtout connu pour sa série sur justement ce détective qui s'appelle Aurelio Zen, dont le premier livre est sorti en 1988 et il s'appelle Rat King en anglais. Et suivront 10 autres bouquins consacrés à ce détective qui s'appelle Aurelio Zen, qui a quelques particularités. Alors il y a le gimmick quoi qui revient souvent, où on le demande d'où vient ce nom en Italie, Zen. Et lui dit je viens de Venise. L'air tout à fait normal quoi, tu vois.
Oui, forcément.
Normal quoi, normal. Alors en plus dans le premier épisode, il a un petit peu de problème, on voit que c'est un homme qui est solitaire et tout, qui n'a pas de nana. D'ailleurs, il y a tout un jeu, un petit balai amoureux avec une secrétaire qui va conclure quand même, on va le dire et tout quoi. Mais on apprend à connaître un petit peu mieux ses trucs. Il est assez timide, il vit chez sa mère lui fait son linge. Il a été marié, mais ça n'a pas fonctionné, alors on ne sait pas trop pourquoi. Et après, il y a bien entendu toute la partie policière qui est vraiment très très bien relevée et tout. Alors on regrettera, il y a un truc qui est, on va dire, un petit peu bizarre, je veux dire, mais c'est, uniquement parce que la version originale, c'est la version anglaise, bien entendu. Et ça fait quand même bizarre de voir tous ces gens parler anglais, des fois avec un accent, on va dire. Ils sont pas tous de Londres et tout. Il y en a qui viennent plus au nord, donc, ou plus à l'ouest. Donc, ils ont un petit accent. Et de les voir parler, alors que ce sont des magistrats des italiens, des policiers. Tu vois, c'est ça. Il y a une espèce de décalage qui, au départ, tu te demandes, tu poses la question. Et après, tu t'y fais parce que bon, c'est quand même bien joué, bien roulé et tout, bien ficelé. Et c'est quand même assez rentre-dedans, on va dire. Hein. C'est pas des enquêtes avec des petits trucs tièdes et tout. On est toujours dans une ambiance plus ou moins de corruption. On est en Italie, quoi, en fait. On s'en rend bien compte. Il y a la mafia qui est pas loin. Quand tu t'éloignes de la ville et tout, que tu vas dans les montagnes, fais gaffe. Tu peux te faire enlever par des mecs qui aiment pas les gens qui viennent dans les montagnes alors qu'ils sont pas invités, tu vois. Enfin bon, c'est assez sympathique quand même. Le premier épisode était assez bien foutu. Donc, je vous conseille de voir donc le suivant. C'est sur 13e rue, mercredi prochain, 20h45, Zen, avec Rufus Sewell dans le rôle titre. Donc ah déjà, oui, ça le fait.
Très bien.
Tu vois, Caterina Molino, elle est italienne. Donc, celle, la petite copine maintenant de Rufus Sewell, à moins qu'il break dans cet épisode. Également Stanley Thompson et tout. Et un casting qui est assez intéressant, je veux dire, parce que bon, bah, il y a des gueules comme ça qu'on reconnaît. Anglaise, hein, bien sûr, britannique, hein, parce que c'est une production britannique, mais c'est tourné en paysage naturel, hein, c'est tourné en Italie, et donc là, des fois, tu te régales à voir des putains de paysages. Bon, mais et ça... pour une fois, c'est une série anglaise où t'as du soleil à fond les manettes.
Ah, oui.
Tu vois, c'est bon, ok, hein, c'est vraiment très très bien foutu. Donc très 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 chaudement conseillé, hein, vraiment quoi. Alors mercredi également sur Ciné Plus Classique. Un grand classique, bien sûr, Autopsie d'un meurtre de Preminger avec Ben Gazzara, Lee Remick, James Stewart, George C. Scott et tout. Enfin bon, impeccable. Sur TCM, là, c'est Western avec les deux cavaliers de John Ford en 61, Richard Widmark et James Stewart. Là aussi, c'est pas mal. Hein, c'est l'histoire entre les deux. C'est très, très rigolo. Et à 20h, à minuit, pardon, sur TCM, mercredi prochain, La Féline, donc, de Tourneur en 42. Orange Ciné Géant vous propose également mercredi prochain Les Implacables de Raoul Walsh avec Jane Russell et Clark Gable. Jeudi sur FX, alors c'est un spécial Wes Craven. Alors, Wes Craven, on sait qu'il nous a fait tout et n'importe quoi. C'est lui qui nous a carrément niqué la notion de film d'horreur et tout en nous sortant Scream.
Ah ben, le premier, c'est lui qui a précipité la mort du genre, voilà, carrément.
C'est lui qui a, en expliquant tous les codes du genre, eh bien, il précipite sa fin. Enfin non, pas tout à fait sa fin, parce qu'il y en a d'autres qui ont repris le truc assez sympathiquement quand même. Mais par contre, bah, il a fait un petit peu de tout. Alors, des grosses bouses, des navires improbables et également des très bons films.
Il a même fait la musique de mon cœur avec Meryl Streep.
Oui, oui, non, mais bon. Okay. Voilà. C'est là, jeudi prochain sur FX, donc trois films de Wes Craven pour le meilleur et pour le pire. À 21h, L'Emprise des Ténèbres. Alors celui-là est pas trop mal avec Bill Pullman, mais c'est Bill Pullman qui sauve le film. Ouais. Moi, jeudi. Il n'y a pas de problème, une histoire de vaudou à Haïti, je sais pas si tu te rappelles, quoi.
Non, j'ai pas vu celui-là.
Bon,
j'ai vu très peu de Wes Craven.
Ensuite, en fait. L'Ami Mortel. 22h35, c'est un film qu'il a filmé juste avant L'Emprise des Ténèbres, mais ça, c'est laisse tomber. Et par contre, alors là, le chef-d'œuvre, quoi, quand même, c'est La Dernière Maison sur la Gauche, ah oui, à minuit. Là, bon, rien à dire. Ou comment on faisait un film trash, horrifique, vraiment, qui te prenait aux tripes en 72, mais sans trop d'effets et sans trop de sang, quoi. C'est ça qui était vraiment très, très bon à l'époque.
Ah, mais déjà, les années 70, ouais, ils étaient forts, les mecs.
Ouais,
hein.
Ouais. Déjà, à l'époque, pour l'époque, c'était vraiment très trash, quoi. Il faut dire, il faut replacer dans le contexte. Le film était interdit au moins 18 ans, X-rated et tout. Parce que, bon, c'était vraiment quand même très, très glauque. Alors, ça, c'est jeudi, donc, sur FX et vendredi. On termine avec vendredi. Vraiment, il n'y a pas grand chose, quand même. Un polar, un western. Sur Polar, à 21h, 10 petits nègres de Paul Collinson, ouais, en 74, c'est le premier, la version originale, donc, avec Oliver Reed, Stéphane Audran et le casting. Alors là, le casting, il a tombé par terre, il n'y a pas de problème, c'est bien joué. Le bouquin, il est bien, c'est un des bons bouquins, moi, que j'aime bien, quoi, d'Agatha Christie, de toute façon, quoi. Et ça se laisse tout à fait regarder encore de nos jours. Sinon, sur Action, également un très bon western, justement, on parlait de gens qui avaient un petit peu cassé le code du film d'horreur et tout. Sam Raimi, lui, il l'a fait également.
Oui.
Mais lui, par contre, eh ben, il a réussi à faire, pas des films d'horreur, mais à se renouveler et à faire autre chose et à le faire très bien. Et par exemple, dans le western, c'est lui qui nous fait mort ou vif.
Ben,
et
là, ben, avec un casting, quoi. Mais un casting.
À l'aise, à l'aise.
Et voilà. Alors, ben, on va.
Alors, j'ai pas la petite musique de truc et tout, quoi.
Tam, tam, tam. Voilà, je le fais à la bouche. Alors, on fait le résumé de l'émission pour ceux qui nous auraient pris en cours de route ou qui auraient, qui sera à la toilette ou qui auraient manqué des moments de l'émission. Aujourd'hui, c'était un supplément week-end haute de tiers puisque Daskreech n'était pas là. Pardon. Nous avions de la nana sexy en kiosque, de la queue qui fait dong dong, des morts avec deux trous, un avocat dans une bagnole, Wesley Snipes partiellement réhabilité, Billy Piper c'est fait, Steven sexagénaire et un gars qui est tellement vieux qu'il en est mort. Et non d'un Steven sexagénaire, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous insulter, nous dire si on fait fausse route, si on est totalement dans la plaque et tout, c'est bien. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, supplementweekend.fr, t'as vu, je le fais à la Xavier. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, eh bien, dans le prochain épisode, on ne sait pas.
Bah non, voilà, comme d'habitude. Hein.
Voilà, y aura des films, de la BD, des séries télé, comme d'hab, à moins qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui soit mort, puisque nous n'avons pas parlé de Claude Miller.
C'est vrai. Et en plus, bon, on l'a pris hier, mais en plus, il faut savoir que, bon, bah, vu les programmes et tout, je peux te dire qu'il n'y a pas de Claude Miller au programme la semaine prochaine et tout, quoi. Bon. Citer quelques films qu'il a fait, surtout Garde à vue, hein, bien sûr, quoi. Hein, qui,
ah oui, c'est lui, oui.
Ouais, Garde à vue. Il y avait également La meilleure façon de marcher, quoi, avec The Wear, avec Bouchité, tout ça, quoi, qui est pas mal aussi. Bref, ouais, un bon metteur en scène, hein, quand même, quoi.
Et bien voilà, donc c'est la fin du supplément week-end. Je vous laisse avec du sport et sushi pour Ça, c'est du sport, qui reçoivent Estelle Villemain aujourd'hui. Ce sera question de VTT.
Ah bah merci de me faire la présentation, c'est sympa.
Voilà, mais après voilà, je te laisse prendre les rênes de l'émission maintenant avec ton super générique de la pétrolette.
Ouais, d'abord il est 13h17, c'est Radio FMR qu'on écoute et tout, un petit peu de musique et ensuite eh bien on attaquera directement avec la page sportive.
Quand il y en a plus, il y en a encore.